France Info.
Pyrénées, la partie ouest des Pyrénées, ça souffle jusqu'à 90 km/h et alors ça dépasse les 100 largement en haute montagne. Plus on va vers l'est et la Méditerranée, plus la situation est plus clémente, excepté pour le Languedoc, où on a toujours ces nuages et quelques pluies qui circulent encore sur les Cévennes. Pour les températures, c'est un peu comme hier, on a des gelées sur le nord-est, l'est d'ailleurs, jusqu'à Avignon, il fait zéro en ce moment. Avignon est le plus doux, et c'est pour Baba. Yo-yo, Bayonne, 12 degrés ce matin.
Merci beaucoup Christine Peña, qui aime toujours beaucoup son baba, son yo-yo, son Bayonne.
Eh ben oui.
On vous retrouve dans 10 minutes et merci à tous d'écouter France Info, il est 5h. Et à la une de ce 21 janvier, la loi des séries en Espagne après l'accident de train en Andalousie qui a coûté la vie à 42 personnes. Deux autres incidents ferroviaires enregistrés hier et un mort de plus. À la une également, Marine Le Pen qui se défend à son procès en appel, récit de l'audience dans un instant. La Ligue des Champions avec Monaco battu 6-1 par le Real, le PSG s'incline aussi et puis le match du Kremlin. Un film qui sort aujourd'hui avec Jude Law qui incarne un certain Vladimir Poutine. Le bilan a donc de nouveau augmenté en Espagne. 42 morts après la collision de deux TGV en Andalousie dimanche soir. Le pays a entamé son deuxième jour de deuil national, tente de comprendre comment un tel accident a pu se produire. Et c'est donc dans ce contexte que deux autres accidents se sont produits à Barcelone et dans sa région. Henri de la Guérie, il y a encore une victime.
L'accident s'est produit peu avant 21h après une journée marquée par des pluies torrentielles. Un train de banlieue de la Renfe a percuté un mur de soutènement qui s'était effondré sur la voie ferrée. L'accident a eu lieu à une trentaine de kilomètres au sud de Barcelone. Le conducteur de ce train de la Renfe est décédé et il y a, selon un bilan communiqué cette nuit par le gouvernement catalan, une quinzaine de blessés, dont 5 sont dans un état grave. Il y avait 38 passagers dans ce train qui avait pour destination Barcelone. Ils ont tous pu être évacués dans la soirée. C'est sans doute la tempête Harry qui frappe la Catalogne depuis deux jours, qui a provoqué l'effondrement du mur de soutènement à l'origine de l'accident. Un accident qui n'est pas isolé puisqu'un autre train de banlieue a déraillé hier après-midi au nord de Barcelone sans cette fois-ci faire de victimes. Cela fait longtemps que les syndicats de cheminots et les usagers dénoncent la vétusté du réseau ferroviaire catalan. Ce matin, par précaution, la circulation des trains est suspendue dans toute la région.
Merci beaucoup Henri de la Guérie en Espagne pour France Info sur ce nouvel accident ferroviaire qui a donc fait un mort et 5 blessés graves. Davos se préparait à l'arrivée de Donald Trump, mais les participants du Forum économique mondial vont devoir patienter sans doute un petit peu plus. L'avion du président américain Air Force One a dû faire demi-tour, annonce la Maison-Blanche, en raison, je cite, d'un problème électrique mineur. Le président américain, en tout cas, est très attendu à ce Forum économique dans tous les esprits. Ces menaces répétées contre le Groenland et contre les Européens qui soutiennent le territoire danois, ces droits de douane aussi annoncés par le président américain. Hier, à cette situation, il en était beaucoup question lors d'une conférence de presse, là aussi très attendue à la Maison-Blanche, Franck Madvon.
Sur le Groenland, Donald Trump ne ferme aucune option et laisse planer la menace du pire. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Vous verrez bien. L'Américain veut dicter l'agenda, pas question de participer à un G7 à Paris à l'invitation d'Emmanuel Macron. Emmanuel ne va pas rester en poste longtemps, il n'y a pas de longévité, c'est un ami, j'aime bien Macron, mais il ne va pas rester, je veux avoir des réunions avec les gens directement impliqués. Trump ajoute qu'il s'entend bien à la fois avec le français et avec le dirigeant britannique Keir Starmer. Ils deviennent un peu plus difficiles quand je ne suis pas là. D'après lui, la France et le Royaume-Uni ont des problèmes à régler, notamment l'immigration et l'énergie. Ils doivent en finir avec les éoliennes. Donald Trump se montre confiant. Les réunions à Davos vont bien se passer. L'OTAN, les habitants du Groenland, tout le monde sera très content, est-il convaincu. Comme souvent, il botte en touche sur certaines questions pour vanter à nouveau son bilan, mais semble ravi qu'un journaliste l'interroge sur Dieu. Je pense qu'il est très fier de mon boulot, dit-il.
Franck Madvon à Washington pour France Info. Alors comment interpréter ces dernières déclarations ? On y revient dans 5 minutes avec l'expertise de Corentin Célin, professeur d'histoire qui est spécialiste des États-Unis. Plus de 5000 agriculteurs venus de toute l'Europe et plus de 700 tracteurs se sont rassemblés hier pour manifester devant le Parlement européen à Strasbourg contre l'accord de libre-échange qui a été conclu avec les pays du Mercosur d'Amérique du Sud. Certains de ces agriculteurs ont passé la nuit sur place alors que les eurodéputés doivent voter aujourd'hui sur une éventuelle saisine de la Cour de justice de l'Union qui pourrait bien bloquer ce texte texte. Le scrutin s'annonce serré. Marine Le Pen à la barre. Aujourd'hui, ce sera son deuxième jour d'audition pour la chef de file du Rassemblement National dans son procès en appel. La patronne des députés du RN est rejugée dans l'affaire des assistants d'eurodéputés qui lui a valu en première instance une condamnation à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate qui la prive pour le moment d'une participation à la présidentielle de 2027. Elle était déjà à la barre hier et pendant 4 heures, elle a reconnu des négligences, Pierrick Bonneau, mais aucune intention de commettre un délit.
Les échanges sont posés, le ton ne monte qu'à de très rares occasions. Marine Le Pen, debout face à la cour, 3 fiches sous les yeux, encaisse les dizaines de questions de la présidente qui épluche les SMS, courriels et interrogatoires du dossier d'instruction. Interrogée sur le fonctionnement des embauches au Parlement européen, souvent la triple candidate à la présidentielle botte en touche. Elle ne sait pas, ne se souvient pas et avoue parfois ne pas comprendre. La présidente s'agace, c'est quand même un problème, non ? Marine Le Pen admet un fonctionnement pas idéal, mais dit-elle, tous les assistants travaillaient. À plusieurs reprises, la prévenue dit contester formellement l'existence d'un système pour détourner des fonds. Elle prend pour cible le Parlement européen à qui elle reproche de ne pas avoir joué son rôle d'arbitre, puis le comptable qui travaillait pour le groupe FN à Strasbourg au moment des faits. Accusée d'avoir un vocabulaire qui rend tout suspect, Marine Le Pen se défausse comme pour détourner l'attention de la cour.
Pierrick Bonneau du service politique de France Info. Du football avec le champion en titre battu, le PSG rentre à Paris avec une défaite dans les valises en Ligue des Champions. Défaite sur la pelouse du Sporting Club Portugal à Lisbonne. Score final 2-1 pour les Portugais face à des Parisiens qui ont pourtant dominé toute la rencontre. Ils ont manqué d'efficacité, Xavier Monferrand, et c'est un peu inquiétant pour la suite.
Il y a des soirs comme ça où ça tourne, ça vire, mais ça ne veut pas. Comme l'impression d'avoir tout bien fait ou presque sans être récompensé. Pire, en se faisant punir. Même l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a du mal à en surveiller sa langue.
On a perdu parce que c'est le football de mer. C'est un sport de mer. Merci, merde en espagnol, de mer. Je suis très fier de ce que j'ai vu, de la personnalité de mon équipe. Mais le foot, c'est comme ça. Pour moi, c'est un résultat très très, très injuste.
Un couac dans la course aux huitièmes de finale. Paris pourrait devoir passer par les barrages, comme l'année dernière. Et s'il le faut, eh bien tant pis. Il le faudra, répond le capitaine brésilien du PSG, Marquinhos.
On voulait gagner aujourd'hui, justement, pour s'assurer de mieux en mieux sur les 8 premières places. On va jouer ce dernier match comme un match très important pour nous, à la maison, avec nos supporters. On verra si on ne va pas se qualifier sur les 8e. C'est à nous de jouer les barrages et aller chercher notre place.
Victoire obligatoire face à Newcastle la semaine prochaine, mais ça pourrait ne pas suffire. En fonction des résultat de ce soir, le PSG pourrait ne plus avoir son destin entre ses mains.
Merci Xavier Monferrand. Autre club du championnat français qui était en lice hier soir, Monaco, très sèchement battu par le Real Madrid, 6-1 avec un doublé signé Mbappé, un ancien monégasque. Et puis Jude Law en Vladimir Poutine, voilà ce qui vous attend au cinéma aujourd'hui. Le match du Kremlin, c'est le nouveau film du cinéaste français Olivier Assayas, adaptation du roman de Giuliano d'Ampoli. L'histoire, Matteo Maestrachi, inspirée de faits réels d'un conseiller de l'ombre du président russe.
What matters in Russia is your proximity to power.
Avec sa présence magnétique et intrigante, le comédien américain Paul Dano interprète brillamment Vadim Baranov, ex-étudiant idéaliste, metteur en scène de théâtre ou rédacteur en chef à la télévision, dans le Moscou survolté post-URSS, qui se retrouve dans la garde rapprochée de Vladimir Poutine fin 99, début 2000, lorsque ce dernier devient en quelques mois chef du gouvernement russe, puis président de plein exercice. Grâce à une narration chronologique, chapitrée, et le montage nerveux d'un film dont on ne voit pas passer les 2h20, Olivier Assayas propose une chronique passionnante de la Russie des années 90 à l'annexion de la Crimée, en passant par la guerre en Tchétchénie, la fin des oligarques ou la cyberbataille menée par les services secrets ces dernières années, dans un film très dense, riche en informations, anecdotes ou personnages secondaires et parfois trop bavards, mais porté aussi par ses autres interprètes comme la Suédoise Alicia Vikander ou un Jude Law sobre et bluffant en Poutine.
I'm not interested in winning the Nobel Peace Prize. I want a war.
Le match du Kremlin, c'est donc aujourd'hui en salle. Merci beaucoup Matteo Maestrachi, Christine Peña. C'est l'heure de votre météo avec de la pluie qui attend à l'ouest du pays.
Mais oui, tout l'ouest, hein, toute la moitié ouest sera arrosée aujourd'hui avec du vent, vent de sud assez fort. Et puis alors les pluies particulièrement soutenues sur la Bretagne. Je vous rappelle, le Finistère et le Morbihan sont en vigilance orange pour ces pluies et ce risque d'inondation. Et puis plus on va vers l'est et la Méditerranée, meilleur le temps est, avec du soleil même sur la région PACA, le nord-est, quelques brouillards toujours. toujours vers le Dijonais et Strasbourg. Elle pourrait être persistante avec ces températures très contrastées. Les gelées sont de nouveau de retour sur l'est du pays. Cet après-midi, on ira de 3 à Strasbourg, 4 à Dijon à cause de ces brouillards persistants et jusqu'à 14 à Tarbes, à Biarritz, à Marseille et à Nice.
Merci beaucoup Christine Peignard. On vous retrouve juste avant 5h30 pour de nouvelles prévisions météo. Il est 5h10.
France Info, le monde d'Élodie.
Bonjour, c'est Élodie Suigo. Je vous retrouve du lundi au vendredi sur France Info, cinéma, théâtre, littérature, musique, sport. Chaque jour, je vous propose un entretien sous forme de portrait avec un artiste autour de son actualité.
Le monde d'Élodie, c'est toute la semaine à 5h20 et 10h50 sur France Info.
Au programme de France Info d'ici 5h30, deux témoignages dans 5 minutes. Celui d'une famille qui cherche toujours l'un des siens après l'accident de TGV en Espagne qui a coûté la vie à 42 personnes. Et puis à 5h20, témoignage d'une Française qui a été violemment agressée en Cisjordanie par des colons israéliens. Mais d'abord, revenons encore lui à Donald Trump.
France Info, 5h-6h, William DeCosta.
Avec une information de toute dernière minute, l'avion de Donald Trump qui devait l'emmener jusqu'au Forum économique de Davos en Suisse a été forcé de faire demi-tour en raison d'un problème électrique mineur. C'est ce qu'annonce la Maison Blanche. Il doit revenir sur la base aérienne Andrews près de Washington pour prendre un nouvel avion et se rendre ensuite dans les Alpes suisses. Tout cela au lendemain d'une conférence de presse assez décousu, disons-le, pour célébrer sa première année de retour à la Maison Blanche. Il a répondu aux questions des journalistes, surtout sur le Groenland et ses tensions qui grandissent toujours un peu plus avec les Européens. Il a répondu à une question sur l'invitation lancée par Emmanuel Macron pour participer cette semaine à un G7 improvisé à Paris avec des représentants russes. Il a décliné le président américain qui a dit plutôt du mal de la France et d'Emmanuel Macron. Corentin Célin est professeur agrégé d'histoire et il est spécialiste des États-Unis.
Je ne pense pas que ce soit spécifiquement avec la France. C'est parce que la France, par la voix de son président, s'est opposée nettement à toute annexion, conquête envers le Groenland et que Donald Trump ne le supporte pas parce que on a quand même l'impression, et surtout après cette conférence de presse, qu'il ne supporte plus la moindre contradiction, la moindre opposition. Je prends un seul exemple pour illustrer au milieu effectivement d'un bilan. Il s'est mis à insulter, mais vraiment à insulter, et sur des mots avec des mots que je ne peux pas répéter sur une antenne nationale. Tous les procureurs qui l'avaient poursuivi, le procureur Jack Smith, la procureure Laetitia James, dans l'État de New York, et cela donnait quand même une impression surréaliste de voir ce président sur le podium de la Maison Blanche, un lieu normalement de solennité, de sérieux, se mettre ainsi à insulter des magistrats ou des magistrats élus. Donc on a quand même l'impression qu'il n'y a plus de limites et qu'il ne tolère plus de limites. Et donc dans l'opposition qui effectivement s'est exprimée spécifiquement contre Emmanuel Macron, il y a vraiment cette idée que toute opposition doit être écrasée. Et par ailleurs, avec un aspect presque ironique et dont on se demande s'il est volontaire, on l'a entendu, c'est de répéter à chaque fois qu'Emmanuel Macron est un très bon ami. Alors on se demande vraiment, avec des amis qu'il traite comme ça, ce qu'il réserve à ses ennemis, hein, parce que là c'était vraiment assez cocasse.
Vous le dites en creux, hein, mais Corentin Célin, il est sans filtre, le président américain, plus aucune retenue, en a-t-il seulement déjà eu? Est-ce que ça peut poser des questions sur sa capacité à rester jusqu'au bout au terme de son mandat à la Maison Blanche. On s'est posé des questions sur Joe Biden. D'ailleurs, il a encore été la cible de Donald Trump lors de cette conférence de presse. Est-ce qu'on a le droit de s'en poser des questions sur Donald Trump ?
Alors, je pense qu'on a le droit et le devoir, de la même manière qu'on l'a fait, y compris sur ses antennes sur Joe Biden. C'est effectivement une question qui se pose, mais si on fait une analyse politique et historique, on voit surtout un président états-unien qui a totalement neutralisé, désamorcé la plupart des contre-pouvoirs, qu'ils soient institutionnels ou même la presse, qu'il a tellement délégitimé par ses insultes, et on voit effectivement un président des États-Unis. Alors, quand même, il faut se souvenir, il y a eu un premier mandat. Durant le premier mandat, il avait les mêmes obsessions. Parlons du Groenland, puisque c'est l'actualité. Alors, il faut rappeler que le Groenland, il y avait déjà eu, on l'a un peu oublié, mais une crise énorme à l'été 2019, durant laquelle il avait déjà dit qu'il voulait prendre le Groenland, mais disons qu'à l'époque, il y avait encore autour de lui des conseillers pour l'amender, pour lui dire que ce n'était pas raisonnable, et finalement, bon, il y avait eu une sortie de crise. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est vraiment quelqu'un qui n'a plus autour de lui, et c'était encore très manifeste ce soir pendant la conférence de presse, les relations qu'il a avec ses collaborateurs. C'est vraiment des relations de domination totale. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas lui parler, on ne peut pas... C'est quelqu'un qui est totalement sans plus aucun contre-pouvoir. Et cela donne cette politique du coup de force, de la menace, il faut bien le dire, d'une forme de chantage avec les tarifs douaniers contre ses propres alliés. Parce qu'il faut bien réaliser que ce qui se passe au-delà du spectacle trumpien, c'est quand même que les États-Unis sont en train de menacer leurs plus vieux alliés, leurs plus fidèles alliés européens, de tarifs douaniers augmentés de manière gigantesque s'ils n'acceptent pas l'annexion d'un territoire qui est associé, le Groenland, à un pays membre de l'Union européenne qui est le Danemark. Je veux dire, c'est ça qui est en train de se jouer. Et on voit bien qu'autour de lui, contrairement à 2019, il n'y a plus aucune limite.
Corentin Célin, spécialiste des États-Unis, professeur d'histoire et qui chronique la vie politique américaine pour le site lesjours.fr, qui répondait aux questions France Info de Julien Langlais. L'Espagne de nouveau endeuillée. Le conducteur d'un train est mort hier dans un nouvel accident ferroviaire dans le pays. Il a percuté un muret qui s'est effondré sur les voies en raison des intempéries. Tout cela alors que les Espagnols pleurent déjà 42 morts dans l'accident de train qui a eu lieu dimanche dernier, cette fois en Andalousie. Et de nombreuses familles d'ailleurs cherche toujours à savoir si un de leurs proches fait partie des victimes. En l'absence de nouvelles, la colère monte, comme pour cette femme qui recherche son frère avec son mari. Vous l'avez rencontré à Cordoue, Sandrine Etoa-Andegue.
Ravière et Marimar déclinent inlassablement l'identité de leur proche disparu. Photo à l'appui.
Agustín Fadón Tobaruela.
C'est un garçon barbu, très fin, brun, d'1m70.
Sa femme poursuit en sanglotant.
Il a eu 39 ans le 3 janvier. On a fêté ça avec ses enfants. Ce que je veux, c'est récupérer le corps de mon frère, essayer d'aller de l'avant, car désormais, ce ne sera plus la vie, seulement la survie.
Le couple l'a cherché partout, notamment dans les hôpitaux de Cordoue, et récite les mêmes informations à son sujet, qu'il était à bord du train Renfe comme personnel de bord et employé au bar. Javier s'agace et s'interroge. Pourquoi son identification est-elle si longue ?
Il a un uniforme, ça se remarque, donc ça ne devrait pas être si compliqué. Je sais que c'est le chaos, un grand drame, mais là je suis au bord du désespoir. Mes beaux-parents, ma femme et un ami de mon beau-père se sont précipités en premier ici au bureau d'information de Cordoue. Ma femme a donné son numéro à plein de gens à l'hôpital. On les appelle, toujours aucune nouvelle. Le fait de ne rien savoir, qu'ils ne t'informent de rien et ne savent rien, c'est ça le pire.
La dernière personne à avoir parlé à Agustín, c'est son collègue, un rescapé, qui se trouvait avec lui derrière le bar au moment de l'accident.
Mon frère n'en est pas sorti tandis que son collègue a pu rentrer chez lui. Mon frère lui a dit « je vais aux toilettes » et 3 secondes après, il y a eu le choc. Je ne sais pas si mon frère a été retrouvé, ils sortent encore des gens des rames. Cette incertitude me tue.
Marimar est abattue et en colère.
Je ne veux plus me taire, je veux que les têtes qui doivent tomber, tombent. Ce n'est pas de la faute des citoyens, ce n'est pas de la faute de la compagnie Renfe. C'est la faute de ceux d'au-dessus, le ministère des Transports en tant qu'autorité compétente. Des têtes doivent tomber, que justice soit faite.
En mémoire de mon frère et des autres victimes, souffle Marimar.
Sandrine Eto'o à Andegue, en Espagne, pour France Info. Restez avec nous dans un instant. Le témoignage d'une Française qui a été violemment agressée par des colons en Cisjordanie. Elle est au micro de France Info dans une minute.
France Info. 5h-6h.
Ce sera après un premier tour complet de l'actu avec vous, Maureen Suignard, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une, à 5h20, ces milliers d'agriculteurs à Strasbourg.
Là où se trouve le Parlement européen, ils étaient 5000 hier et une partie sera encore là ce matin. Les députés européens doivent décider de saisir ou non la Cour de justice de l'Union européenne sur la validité de l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Il a été signé le week-end dernier. Le vote s'annonce très serré. Le président américain attendu à Davos tout à l'heure au Forum économique mondial, Donald Trump va prendre la parole alors qu'il multiplie les menaces ces derniers jours. Il veut notamment taxer les pays qui s'opposeraient à l'annexion du Groenland. Hier, Emmanuel Macron a mis en garde contre les tentatives américaines de subordonner l'Europe. En plein deuil national après la catastrophe ferroviaire dimanche en Andalousie qui a fait au moins 42 morts, l'Espagne fait face à un nouvel accident de train. Un train de banlieue a heurté une partie de mur qui s'est effondré sur les voies près de Barcelone. Il y a un mort et 5 blessés graves. Le gestionnaire du réseau ferroviaire affirme que l'effondrement a été provoqué par une tempête en cours dans la région. Et puis en France, deux départements bretons sont en vigilance orange. Ce matin, le Morbihan et le Finistère pour des risques de pluie inondation. Le Finistère est aussi en vigilance crue.
C'est la première fois qu'une Française est violemment agressée en Cisjordanie depuis le retour de la guerre au Proche-Orient, depuis les attaques du 7 octobre. Elle témoigne ce matin sur France Info. Cette attaque, elle date de samedi soir dernier dans le village bédouin de Mourmas. C'est entre Jérusalem et Ramallah. Des véhicules et des bâtiments ont été incendiés et Alban Buriel raconte avoir frôlé la mort. À votre micro France Info, Thibault Lefebvre.
Alban Buriel commence le récit de son agression.
Je me suis fait frapper à coups de baramine.
Très vite, elle cherche ses mots, respire difficilement, puis craque. Cette docteure en sciences de l'éducation d'une quarantaine d'années est habituée aux zones de conflit.
J'ai principalement été en Irak et en Syrie.
Elle accompagnait samedi des activistes israéliens pour ce qu'elle appelle une mission de présence protectrice. L'idée consiste à rester jour et nuit avec les communautés bédouines les plus vulnérables pour dissuader les colons israéliens de les attaquer.
J'ai vu une vingtaine de personnes et ils ont commencé à me jeter des pierres. Il y avait une voiture en face de moi, donc je me suis mise à terre pour me protéger des jets de pierre. Une de ces personnes m'a directement frappée avec une barre métallique très lourde. J'étais seule en fait à ce moment-là, tout le monde avait fui. Donc j'ai reçu, je pense, au moins 20 coups, assez forts. Et ensuite, une autre personne a mis le feu à la voiture contre laquelle j'étais. Mais je me suis reculée d'un mètre, mes jambes me faisaient très mal. De loin, on voyait des personnes qui mettaient le feu de ci, de là, et ils sont partis.
Alban Buriel souffre de multiples contusions.
J'ai des gros hématomes, beaucoup sur la jambe, un peu dans le dos.
Et si elle a accepté de témoigner, c'est pour sensibiliser sur les violences incessantes, terrorisantes, que subissent les Palestiniens de Cisjordanie occupée.
Ça me touche parce que je comprends de l'intérieur le traumatisme que toutes ces personnes peuvent vivre. Une vulnérabilité extrême en fait, parce qu'ils sont totalement dépossédés, c'est de pire en pire et cette violence elle semble systémique.
Selon l'armée israélienne, les violences des colons ont augmenté de 25% l'année dernière. 10 Palestiniens sont morts et près de 400 ont été blessés depuis 2024.
Un témoignage recueilli par Thibault Lefebvre, le correspondant de France Info au Proche-Orient. Il est 5h23 et c'est l'heure du monde d'Élodie. Avec un journaliste ce matin.
Bonjour Hugo Clément.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et militant écologiste, connu et reconnu par les Français comme fervent défenseur alors du bien-être animal, mais aussi de la planète. Votre visage est apparu d'abord derrière le petit écran. Ça a commencé par France 2. Ensuite, il y a eu l'émission Le Petit Journal, devenu quotidien. Vous êtes ensuite passé par Combini, avant de poser vos bagages de nouveau à France 2. Et comme cela ne vous suffisait pas, parce que vous êtes totalement addict au travail, vous avez créé votre propre média en ligne, Vaquita, dédié à l'environnement. Et vous menez régulièrement des actions pour la protection de la nature et des animaux. Vous venez de publier publié avec Vincent Ravalec et Dominique Mermoux, Le paradoxe de l'abondance, chez Dargaud. Le sous-titre, c'est comment l'agriculture industrielle détruit les sols, pollue l'air, empoisonne les nappes phréatiques au point de nous mettre toutes et tous en danger. C'est un vaste programme, hein, Hugo. Et en même temps, on a l'impression que personne n'entend.
Bah justement, on a voulu faire cette BD pour montrer que c'est pas le cas et qu'il y a beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices, y compris en France, qui font autrement que le système dominant de l'agriculture destructrice du vivant. On voit toujours un peu les mêmes personnes dans les médias quand il s'agit de parler d'agriculture, à savoir le syndicat majoritaire, la FNSEA, qui porte un discours très porté sur les pesticides, sur le libre-échange, alors qu'il y a tout un autre pan de la paysannerie en France qui fait différemment, et on s'est dit qu'il était temps de les mettre en lumière et de montrer qu'on pouvait faire autrement.
Ce qui ressort, c'est l'hypocrisie quand même, hein, du monde dans lequel on vit.
Ouais.
C'est pas le plus gros du travail, ça, justement, Hugo, d'aller donner des vrais chiffres, de remettre les choses dans le contexte, de lutter contre la désinformation.
Oui, tout à fait, d'en revenir aux faits, de donner la parole aux scientifiques, de donner la parole aux agriculteurs qui sont sur le terrain, qui voient ce qui se passe, notamment sur le changement climatique, notamment sur la perte de fertilité des sols, la disparition des vers de terre, qui sont des auxiliaires indispensables à l'agriculture. On ne peut pas faire d'agriculture sans vers de terre et sans insectes pollinisateurs. Et ce que j'essaie aussi de faire, et ça c'est très important pour moi, c'est de pas faire d'idéologie politique, de pas rentrer dans un clivage partisan. Et malheureusement, souvent, quand il est question d'écologie, on tombe très vite dans un clivage très très politisé où il faut être d'accord sur tout, soit on est dans un camp, soit on est dans l'autre, alors qu'en fait c'est un sujet qui devrait dépasser nos désaccords sur les autres thématiques et nous permettre d'avancer ensemble, parce que on va tout simplement arriver dans le mur si on continue comme on le fait aujourd'hui. On a 89% des sols agricoles en France qui sont dégradés, et à moyen terme, on ne sera plus en capacité de produire de la nourriture de qualité pour nourrir les Françaises et les Français, tout simplement.
Vous abordez l'agonie des sols en premier lieu.
Ouais.
Vous êtes parti pour cette enquête d'une alerte qui était lancée justement par les agriculteurs. Ils se sont rendus compte que la terre était devenue de plus en plus friable,
ouais,
qu'il n'y avait plus aucune vie dans, ouais, cette terre-là. Ça, c'est une alerte qui est colossale.
Oui, notamment dans le nord de la France, dans les grandes plaines agricoles, où quand vous prenez un peu de hauteur avec un drone pour filmer, il y a quelque chose qui vous saute au visage tout de suite, c'est qu'il n'y a plus d'arbres du tout. Il n'y a que des monocultures de céréales majoritairement, ou de betteraves. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que quand il pleut beaucoup, il n'y a plus rien qui retient la terre. Et quand il pleut, la terre fertile s'en va. On le voit depuis le ciel, comment la destruction des paysages agricoles traditionnels avec des arbres, des haies qui permettaient de ralentir l'érosion et aussi d'enrichir le sol avec une rotation des cultures qui est de moins en moins présente dans ces grandes plaines agricoles, eh bien, on perd cette terre fertile. Et pour reconstituer cette terre fertile, ça prend des décennies, voire des siècles. Donc c'est une situation qui est bien sûr alarmante.
Qu'on comprenne bien, ça commence par le sol, mais ça touche l'eau. L'eau, c'est 70% de notre organisme. Sans eau, on meurt. Les cultures également meurent. L'agriculture, c'est l'aberration de nos systèmes de consommation. On pourrait imaginer que vous n'avez plus d'espoir, mais au contraire, hein, le fait d'être avec des...
Ah bah oui,
des scientifiques,
et
au contraire, oui, en fait, c'est ce qui galvanise, c'est d'être dans l'action.
D'être dans l'action, et puis surtout, encore une fois, de voir qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui font des choses super. Il y a des milliers de victoires qui sont remportées partout en France, tous les jours, par des petites associations qui arrivent à s'opposer à un projet de destruction d'une zone humide, par un agriculteur qui réhabilite les haies en replantant. Et il faudrait vraiment qu'on soit derrière eux, qu'on arrive à accélérer ce mouvement-là, et surtout qu'on arrête de soutenir via les subventions publiques les modes de production les plus destructeurs, parce que on nous répète tout le temps que on n'a pas le choix, c'est comme ça, il faut bien que les exploitations soient rentables, etc., etc. Mais elles ne sont pas rentables aujourd'hui, la majorité des exploitations agricoles. Elles ne survivent que grâce aux subventions publiques. Souvent, l'écologie est peut-être incarnée par des gens qui sont très politisés et que ça peut éloigner une partie de la population de ces questions-là, et qu'on a tout intérêt à en faire une question simplement d'intérêt commun et d'intérêt de l'humanité au-delà de nos désaccords.
C'est vrai que la casquette de père, de famille aussi joue énormément.
Ah bah oui, quand vous avez des enfants, c'est sûr que forcément ça vous projette au-delà de votre propre existence. Et donc ça vous projette aussi dans une volonté de leur permettre d'être aussi heureux, voire plus heureux que nous, dans un monde habitable.
Merci beaucoup, Hugo.
Merci
Clément,
à vous.
D'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Ça s'appelle Le paradoxe de l'abondance, avec Vincent Ravalec, je vais le préciser parce qu'il vous a beaucoup accompagné.
Tout à fait.
Et Dominique Mermoux, est sorti chez Dargaud. Merci beaucoup.
Merci.
Le monde d'Élodie à retrouver sur franceinfo.fr. La météo. France Info Météo avec Verisure. En 2026, priorité à votre sécurité. Faites confiance à Verisure, alarme télésurveillée numéro 1 en France. Devis gratuit sur verisure.fr.
Christine Peña, la France est divisée en deux.
Oui, en deux exactement. Le côté ouest et à l'opposé l'est. Alors à l'ouest, rien ne va plus avec cette perturbation qui viendra se caler vraiment de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Normandie. La Bretagne, nous avons des pluies soutenues surtout ce matin avec surtout ce vent qui soufflera fort un petit peu partout, le plus fort en haute montagne. Ça va largement dépasser les 100 km/h vers les Pyrénées et l'ouest des Pyrénées, sur le Pays Basque également. Ça va bien souffler aujourd'hui. Et puis à l'opposé, à l'est, nous avons une situation beaucoup plus clémente, calme, même lumineuse, voire ensoleillée, à l'exception du Languedoc où le ciel restera chargé avec encore quelques pluies autour des Cévennes et puis de la neige à partir de 1000 mètres d'altitude. Pour les températures, on a toujours ce grand contraste également. Là où il y a du soleil, et bien surtout sur le nord-est, hein, nous avons le froid qui s'est installé et qui restera avec ces brouillards qui pourraient encore persister, notamment du côté de Strasbourg et de Dijon, où là vous ne dépasserez pas les 3-4 degrés, alors qu'il est prévu 10 à Lille, à Reims, à Rouen, 12 à Nantes, à Bordeaux, 13 à Paris, comme à Clermont-Ferrand, à Montpellier, Nîmes également, 14 à Tarbes, à Biarritz, à Marseille et Nice. Et pour la suite, pas d'amélioration, mais alors du tout, on attend du vent encore de nouveau qui se renforcera vendredi, des températures en légère baisse pour ce week-end.
Merci beaucoup Christine Peña. Sur France Info, d'ici 6h, nous allons revenir sur cette conférence de presse très offensive, encore une fois, de Donald Trump. Offensive contre les Européens, rendez-vous dans 10 minutes. Ne ratez pas non plus le choix de France Info avec la Chine à la pointe de la recherche contre le cancer. 40% des essais mondiaux ont lieu là-bas désormais. Ce sera à 6h-10. Merci d'écouter France Info de si bonne heure. Faisons un nouveau tour de l'actu à 5h30.
France Info.
La vignette critère va-t-elle disparaître de votre pare-brise? Les zones à faible émission, en tout cas, sont menacées de disparition. Leur suppression a été rajoutée à la loi de simplification par les parlementaires, rajoutée à la version finale qui sera mise au vote la semaine prochaine, Audrey Tison.
Interdire les voitures les plus polluantes dans les grandes villes, c'est une mesure que combat la droite comme le Rassemblement national. Le député RN Pierre Meurin est particulièrement à la manœuvre.
Vous ne pouvez pas dire aux Français les plus modestes qui ont une vieille voiture qu'ils polluent les urbains qui ont concentré justement tous les services dans les métropoles. C'est un scandale d'un point de vue du contrat social. C'est une mesure que je considère comme séparatiste.
Hier, il a de nouveau réussi à supprimer les zones à faible émission contre l'avis des macronistes et d'une partie de la gauche, l'écologiste Lisa Bellucco.
En termes environnementaux, ça n'a pas de sens. Il faut agir pour la qualité de l'air. Et c'est juste par pur électoralisme, regardez les ZFE, c'est pas bien, les gens sont mécontents, donc on les supprime.
Elle espère encore que les ZFE seront sauvés lors du vote final du texte dans quelques jours.
Il se pourrait que le vote soit très serré à l'Assemblée nationale parce que dans le bloc central, il y a aussi un certain nombre de députés qui ne sont pas d'accord avec la suppression des zones à faible émission qu'ils ont eux-mêmes créées.
Le bloc central est clairement gêné, commente un cadre de la droite. Lors d'un précédent vote intermédiaire, le groupe Renaissance de Gabriel Attal avait voté contre ce texte initialement proposé par le gouvernement.
Merci Audrey Tison. Donald Trump aura du retard pour le Forum économique de Davos. Son avion Air Force One, parti cette nuit des États-Unis, a dû faire demi-tour en raison d'un problème électrique mineur, annonce la Maison Blanche. Il doit prendre un nouvel appareil pour se rendre en Suisse où il est attendu évidemment sur le dossier Groenland. Hier, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, à la question « Jusqu'où irez-vous pour le Groenland ?», il répond « Vous verrez bien ». Il a également refusé de participer à une réunion du G7 à Paris sur proposition d'Emmanuel Macron. Nous allons y revenir sur France Info. Comment la répression a-t-elle été menée en Iran? Mouvement durement réprimé dans le sang avec des milliers de victimes. Il a été difficile de documenter la situation, de donner un bilan, les communications ayant été coupées dans le pays. Mais l'ONG Amnesty International vient de livrer des conclusions. Elle assure avec des images, des analyses d'images, que des fusils d'assaut et des mitrailleuses ont été utilisés pour tuer des manifestants, Valérie Crova.
Amnesty International est formelle. Après avoir étudié des séquences vidéo, des tireurs embusqués étaient positionnés sur des toits et pas n'importe lesquels, ceux des mosquées. Ce pouvaient être également les toits de postes de police ou ceux de bâtiments résidentiels. De leur position en hauteur, il était facile d'ouvrir le feu sur les manifestants. Certains groupes de défense des droits de l'homme affirment que les forces de l'ordre iraniennes utilisaient également des lasers pour identifier certains manifestants. manifestants. Fusils d'assaut, fusils de chasse, mitrailleuses automatiques ou semi-automatiques, l'arsenal répressif ne laissait guère de chance aux protestataires. Au plus fort des manifestations les 8 et 9 janvier, les fusils de chasse chargés de plomb ont occasionné de graves blessures au corps et au visage, en particulier les yeux. Les tirs se faisaient à bout portant et de façon indiscriminée. Le but était d'infliger le maximum de souffrance aux manifestants à des fins punitives, souligne Amnesty International.
Les précisions de Valérie Crova. Le président élu du Chili, José Antonio Kast, d'extrême droite, annonce de première nomination et comme ministre de la Défense et de la Justice et des Droits Humains. Il a choisi deux anciens avocats, d'Augusto Pinochet, l'ancien dictateur du pays. Ils entreront tous en fonction au mois de mars. Le ministre de la Justice en France veut créer des prisons-hôpitaux. Gérald Darmanin travaille avec la ministre de la Santé pour ouvrir dans l'année un premier établissement pénitentiaire dédié aux détenus atteints de troubles psychiatriques qui représente, selon l'entourage du ministre à l'heure actuelle, 20 à 25% des prisonniers. Cédric Jubilard décide de se séparer de ses deux avocats, Alexandra Martin et Emmanuel Franck, défendent l'homme condamné en première instance l'année dernière à 30 ans de réclusion pour le meurtre de sa femme Delphine dans le Tarn, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Son procès en appel doit avoir lieu à la fin de l'année ou début 2027. Et puis les Français continuent de plébisciter le TGV. Record de fréquentation en 2025 pour SNCF Voyageurs avec 168 millions de passagers transportés dans les TGV Inouï, les Ouigo et les Eurostar. C'est 3,5% de plus par rapport à l'année précédente. Merci d'écouter France Info, il est 5h35.
France Info, 5h-6h, William Gacosta. France Info, municipale 2026.
Et c'est l'un des enjeux des municipales qui arrive au mois de mars. L'école est une question. Êtes-vous satisfait des établissements de votre commune? 7 Français sur 10 répondent oui lors d'une enquête d'ICI, le réseau des radios locales de Radio France, que nous dévoilons ce matin. Consultation de 16 000 personnes menées avec Odoxa. Bonjour Émilie Defay.
Bonjour.
Alors ce qui ressort de cette enquête, c'est que derrière cette apparente satisfaction des Français vis-à-vis de l'école se cachent quand même de grandes disparités.
Oui, le constat global est positif. 7 Français sur 10 sont satisfaits des écoles, collèges et lycées dans leur commune. C'est dans l'Ouest, en Bretagne, Pays de la Loire, mais aussi dans le centre-Val de Loire que les habitants sont le plus satisfaits. 80% en Bretagne contre 63% seulement en région PACA. Il y a de vraies disparités selon les territoires. Ainsi, dans certains départements, on a même près d'un habitant sur deux qui juge que le niveau est mauvais. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône et la Seine-Saint-Denis, mais aussi dans des départements ruraux comme la Creuse, les Vosges ou la Charente, où 40% partagent ce sentiment.
Il y a aussi des disparités entre l'enseignement public et l'enseignement privé.
Quand on demande aux Français de juger l'école publique, ils sont beaucoup plus sévères. Seule une petite moitié, 56%, a une opinion positive. Avec là aussi des différences très importantes entre les territoires. 70% des Bretons sont satisfaits de la qualité des écoles, collèges et lycées publics près de chez eux, contre 47% seulement des habitants de PACA. Et dans certains départements ruraux, comme la Creuse, la Somme ou l'Ariège, l'insatisfaction est même majoritaire. C'est le cas aussi dans les métropoles et dans certains départements très urbains comme les Bouches-du-Rhône ou la Seine-Saint-Denis.
Et puis on parlait justement des municipales, alors qu'attendent les Français de la part de leur maire pour l'école de demain ?
Il faut d'abord noter que les Français sont globalement satisfaits de l'action de leur maire en matière d'éducation, même si c'est moins le cas dans les territoires ruraux où les habitants pointent par exemple le manque d'équipements comme les bibliothèques ou les centres de loisirs. Mais de manière générale, les Français attendent en priorité leur maire sur les sujets de société comme la lutte contre le harcèlement scolaire. Cela arrive loin devant les autres sujets comme le développement des loisirs culturels pour les jeunes par exemple. Les Français souhaitent aussi que l'école puisse s'ouvrir. 8 sur 10 se disent pour l'école dehors qui permet aux écoliers d'apprendre à l'extérieur.
Merci beaucoup Émilie Defay pour cette enquête menée donc par Odoxa et ICI, le réseau des radios locales de Radio France. C'est le coup d'envoi aujourd'hui de la future loi de bioéthique et des états généraux de la bioéthique s'ouvrent aujourd'hui. Alors des débats seront organisés partout dans le pays. On y discutera de sujets très variés, les greffes d'organes d'animaux sur les hommes, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde de la santé ou alors la procréation médicalement a assisté. D'ailleurs, la dernière loi de bioéthique, elle date de 2021 et elle a justement ouvert cette PMA, procréation médicalement assistée, on le rappelle, à des couples de femmes ou à des femmes seules, et elles sont de plus en plus nombreuses à en bénéficier. Fin 2024, les célibataires représentaient près de la moitié des demandes de PMA. Adelaure Danier, vous avez rencontré l'une de ces femmes qui a bénéficié d'une PMA.
Attends. Priscilla a 40 ans, elle tient dans ses bras la petite Malo et 2 mois et demi.
Oui. Allez.
Sans cette évolution de la loi en 2021 qui a ouvert la PMA aux célibataires, elle n'aurait pas eu d'enfant et pourtant, c'était un désir bien ancré.
Moi, j'ai toujours eu envie d'être maman. Hein. Maintenant, c'est sûr que la vie a fait que je n'ai pas rencontré la personne qui allait être le papa de mes enfants. Et j'ai trouvé ça génial de me dire, ah bah du coup, en France, on peut faire ce parcours-là avec des donneurs. Donc je trouve que c'est incroyable, cette possibilité à laquelle j'aurais jamais pensé, quoi.
Vous me disiez, sans cette loi, j'aurais pas pu être maman.
Non, parce que vraiment, mon choix était de faire quelque chose d'encadré, de français, et en plus gratuit. Et c'est quand même un gros sujet. Quand vous allez en Espagne, en Belgique, c'est des déplacements, c'est de l'argent, c'est... La démarche du donneur n'est pas la même. Moi, c'était important que ce soit vraiment un donneur qui fasse ça juste de façon altruiste. En plus, maintenant que ces donneurs sont ouverts, ils donnent leur accord pour que le dossier soit consultable par l'enfant. Ça, pour moi, c'était super important aussi.
Priscilla est auxiliaire de puériculture à la maternité d'Anthony dans les Hauts-de-Seine. Elle a vécu ce parcours de PMA en connaisseuse, sans se réjouir trop vite. Après 3 inséminations infructueuses, elle a conçu Maloé grâce à une FIV.
Elle est arrivée... Voilà, le 30 octobre dernier, la petite Maloé, qui dort sur moi. Ça me fait toujours bizarre, quoi, de dire, ça y est, c'est réel, elle est vraiment là, c'est vraiment la mienne, et il y a vraiment quelqu'un qui m'a permis ça, quoi. Donc, merci à lui, quoi, c'est juste incroyable. Et voilà, et elle fait le bonheur de toute la famille, la tata, les papis, mamie, elle était assez attendue. Cette petite.
Priscilla voudrait qu'il y ait plus de publicité sur cette PMA pour toutes et plus de donneurs de spermatozoïdes pour répondre à une demande qui ne cesse d'augmenter. Fin 2024, plus de 10 600 femmes étaient en attente d'une procréation médicalement assistée.
Témoignage au micro d'Anne-Laure Danier sur France Info. Donald Trump était en route pour Davos. Il est en train de faire le chemin inverse pour le moment. Air Force One, l'avion présidentiel américain, a dû faire demi-tour avec un problème mineur électrique, dit la Maison Blanche. Il doit repartir tout de même pour le forum économique qui a lieu en ce moment en Suisse et il aura sans doute un peu de retard donc pour son discours. Bonjour Franck Madvon.
Bonjour, bonjour à tous.
Ce discours, il est très attendu dans l'après-midi. Donald Trump qui doit aussi discuter avec des dirigeants européens de sa volonté de prendre le contrôle du Groenland. Il a d'ailleurs fait plusieurs sorties médiatiques, c'est le moins que l'on puisse dire hier. Alors dans quel état d'esprit va-t-il arriver à Davos, Franck ?
Alors écoutez, après la série de déclarations et de messages virulents de la nuit précédente, le ton a été un peu moins agressif hier vis-à-vis des Européens. Donald Trump s'est notamment invité au point presse de la Maison Blanche. Il a livré un long monologue très décousu qui a même entraîné des commentaires de l'opposition démocrate sur son état mental. Puis il a répondu à des questions en rafale pendant une grosse vingtaine de minutes, des réponses souvent brèves, lapidaires. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller au Groenland ? Vous verrez bien. Allez-vous participer à un éventuel G7 proposé par Emmanuel Macron à Paris ? Non, Emmanuel ne sera bientôt plus en poste. C'est un ami, un chic type. J'aime bien Macron, mais je parle avec les personnes directement impliquées. Il a plusieurs fois suggéré qu'un accord lui semblait possible à Davos.
Mais Donald Trump maintient tout de même cette pression sur les Européens.
Oui, il répète à longueur d'interview que le Groenland est une question de sécurité nationale, pas question d'y renoncer. Il l'a redit hier soir sur la chaîne News Nation. Dans cette interview, il a répondu à une question sur la menace des Européens d'activer l'instrument anti-coercition de l'UE, souvent présenté comme le bazooka en cas de guerre commerciale, une arme puissante pour restreindre le commerce avec les États-Unis. Pas de quoi impressionner Donald Trump. Ils font déjà du bazooka commercial. Ils infligent des milliards de dollars d'amende à nos entreprises, Apple, Google et d'autres. On ne devrait pas faire ça. Nous venons de signer un accord avec eux, un bon accord, important. Donc je crois qu'ils ne savent pas ce que veut dire bazooka. Quoi qu'ils nous fassent, je n'ai qu'à leur rendre l'appareil et ça se retournera contre eux. Mais on ne cherche pas ça, on va probablement trouver une solution, peut-être même dans les jours à venir à Davos. Voilà, Donald Trump continue donc à souffler le chaud et le froid. Il a confié juste avant de décoller qu'il n'avait aucune idée de la manière dont allait se dérouler son voyage à Davos.
Et il n'avait sans doute pas idée que son avion devrait faire demi-tour. C'est l'information de la nuit. Franck Madvon le rappelle, Air Force One, l'avion présidentiel de Donald Trump, a dû faire demi-tour en raison d'un problème électrique mineur. Mais il va repartir. Il est de retour vers la base d'Andrews, près de Washington, pour prendre un nouvel appareil et bien se rendre au Forum économique mondial qui a lieu à Davos. Merci beaucoup à Franck Madvon à Washington. Le gouvernement français promet de nouveaux poulaillers partout en France pour répondre à la demande d'eux. Mais les riverains de ces futurs poulaillers, eh bien, n'en veulent pas. Vous allez les entendre dans un instant.
Du 28 janvier au 1er février 2026, France Musique, partenaire de la folle journée de Nantes. Les fleuves, du Danube à la Moldau, en passant par le Rhin, le Mississippi, la Volga ou encore la Loire. Ces grands fleuves qui irriguent les continents ont joué un rôle central dans le développement musical des plus grands compositeurs. Rendez-vous du 30 janvier au 1er février sur France Musique pour vivre en direct la folle journée de Nantes. France Musique, une radio de Radio France.
Amnistie internationale est formelle.
France Info, 5h-6h.
6h moins le quart sur France Info, l'heure de l'info en une minute avec Maureen Suignard. Et à la une, ce nouvel accident de train en Espagne
qui a fait un mort et 5 blessés graves près de Barcelone. Un train de banlieue a heurté les débris d'un mur qui s'était effondré. Le gestionnaire du réseau affirme que les intempéries sont en cause. Cet accident se produit après celui de dimanche soir. 42 personnes ont été tuées et plus de 120 blessés dans une collision entre deux trains. Un face-à-face États-Unis-Europe. Donald Trump arrive à Davos en Suisse aujourd'hui au Forum économique mondial. Il va prononcer un discours et il annonce par ailleurs que plusieurs réunions vont se tenir sur le Groenland. Il cherche toujours à s'emparer du territoire danois malgré l'opposition des Européens. Les ZFE, les zones à faible émission, vont-elles être supprimées? Ces zones où les voitures les plus polluantes sont interdites. En commission mixte, des députés et des sénateurs se sont mis d'accord pour proposer leur suppression. Mesure soumise au vote la semaine prochaine. Et puis 10% de visiteurs en moins au marché de Noël de Strasbourg. Un peu plus de 3 millions de personnes sont tout de même venues le visiter, une baisse après une édition 2024 record. Et cela avait entraîné des critiques de la part des habitants qui dénonçaient notamment le surtourisme.
France Info. C'est un produit bon marché, bon pour la santé et bon au goût, à tel point qu'il est victime de son succès. Je parle évidemment de l'œuf. La consommation a progressé de 5%. L'année dernière, les producteurs français ont bien du mal à suivre. Il y a des rayons vides dans certains supermarchés. Alors pour faire face à cette hausse de la consommation, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé un plan de construction de 300 poulaillers d'ici 2030. Mais certains, eh bien, n'en veulent pas. Ceux qui devront vivre à côté, illustration dans la Vienne, à une vingtaine de kilomètres de Poitiers, Boris Loumagne.
Virginie habite la commune de Celles-l'Évêcaux, route des résistants. Et justement, elle résiste et elle se bat contre l'implantation d'un poulailler géant dont la construction a commencé à une centaine de mètres de sa maison.
À là, j'ai la vue directe sur des bâtiments, un camion vert. Alors les nuisances, elles sont déjà commencées. Ça fait un an que les poids lourds n'arrêtent pas de passer sur une route qui est interdite, au plus de 3,5 tonnes. Ensuite, bah, c'est les nuisances olfactives, l'odeur d'ammoniac. Et puis les bruits, il y aura des ventilateurs 24 heures sur 24.
Aujourd'hui, il y a les camions, mais il y a aussi, il faut savoir, le fait que nos maisons, elles sont invendables.
Elle, c'est Laetitia, la voisine de Virginie.
Elles perdent de leur valeur, nous ne pouvons même pas partir de chez nous.
Alors les riverains craignent les nuisances, mais ils s'opposent aussi au type d'élevage de ce poulailler. Ici, à Celles-l'Évêcaux, on parle d'une production d'œufs industrielle, 140 000 poules. enfermés jour et nuit dans des hangars.
Installez-nous quelqu'un qui veut faire de la poule en plein air avec un bien-être animal, qui produit, on ira même acheter nos œufs chez lui, il n'y a aucun souci. Mais ce genre de situation, c'est pas acceptable. Aujourd'hui, moi je pose la question, qui veut ça à côté de chez lui ?
Eh bien, pas grand monde dans la commune ne veut de cet élevage. Le maire a d'ailleurs déposé 3 recours, dont un concernant des risques de pollution de la nappe phréatique. En fait, l'élu dispose aujourd'hui d'outils juridiques pour freiner ce type de projet, mais ce sera sans doute moins le cas à l'avenir, puisque la ministre de l'Agriculture a promis d'assouplir les procédures d'installation d'un poulailler. L'État veut des œufs, son représentant dans la Vienne l'a bien compris. Le préfet Serge Boulanger a autorisé la construction du futur poulailler géant.
C'est une nécessité pour le département comme pour le reste de la France. Alors même que nous étions excédentaires il y a encore une petite dizaine d'années, la France aujourd'hui achète des millions d'œufs par an à l'étranger. Des œufs sur lesquels nul ne peut garantir les conditions sanitaires, etc. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de développer sur le territoire français un certain nombre de poulaillers. Et nous avons, dans d'autres communes du département, des projets de création de poulaillers. Bien évidemment, nous impulsons ces projets.
Et pendant que le préfet veut accélérer les constructions de poulaillers, les riverains de Celles-l'Évêque, eux, poursuivent leur combat dans un climat de tension avec l'aviculteur, qui n'a d'ailleurs pas donné suite à nos sollicitations.
France Info, reportage à signer Boris Loumagne. Il est 5h49 et c'est l'heure du choix de France Info. La Chine se classe désormais première dans de nombreux domaines, dans l'industrie, dans la technologie et dans la santé. Le pays est en passe de devenir le premier acteur mondial de la recherche contre le cancer. Bonjour Solène Lehen.
Bonjour.
Spécialiste santé de la rédaction de France Info, les scientifiques, comme les médicaments chinois, s'imposent désormais sur un marché qui était jusqu'à présent dominé par les Américains et par nous, les Européens.
Pour vous donner une idée, en 2024, les Chinois ont réalisé presque 40% des essais cliniques lancés dans le monde sur le cancer. Ils prennent une place de plus en plus grande et ça se voit. Exemple en juin dernier. Nous sommes dans les allées du plus grand congrès mondial sur le cancer à Chicago, aux États-Unis. Et alors que les Chinois ont toujours été très discrets, voire quasi absents pendant des années, là c'est marquant, on croise des dizaines de cancérologues, également beaucoup de journalistes, comme Chang Huan qui travaille pour DXY, le principal média chinois spécialisé en médecine.
Dans ce congrès à Chicago, les Chinois présentent lors de sessions orales plus de 70 études, c'est beaucoup. Nos laboratoires pharmaceutiques sont en pleine expansion, la recherche chinoise s'améliore, nos études sont innovantes, avec les anticorps conjugués par exemple, on crée les médicaments du futur.
Et au dernier congrès européen du cancer à Berlin cet automne, sur 12 études mises en avant, des hôpitaux chinois ont participé à 8 d'entre elles et 2 portaient sur des médicaments chinois. Longtemps, la Chine a été regardée de haut, jugée tout juste bonne à copier des médicaments déjà existants, mais vous l'avez compris, tout a changé aujourd'hui.
Et ces progrès phénoménaux de la Chine, Solène, la France les surveille de très près.
Oui, je suis allée voir une personne qui connaît très bien la recherche chinoise. Il est lui-même chinois et nous accueille dans son bureau du centre anti-cancer Gustave Roussy à Villejuif, le docteur Yun Gantao. Arrivé en France il y a une vingtaine d'années, spécialisé dans la radiothérapie et les cancers ORL, il suit très attentivement les progrès de la recherche chinoise.
C'est équivalent peut-être avec les Américains et je pense ça a déjà dépassé l'Europe. Et en plus, là-bas, les autorités chinoises, ça pousse fort pour l'innovation. En Chine, ils ont fait beaucoup de progrès maintenant. Il est quasiment un des leaders mondiaux dans le cancer du poumon. Hein.
Le docteur Yun Gantao s'est rendu l'an dernier une dizaine de fois en Chine où il a noué des contacts avec de nombreux laboratoires pharmaceutiques et confrères cancérologues comme le professeur Feng Teng qui travaille dans un grand hôpital de Pékin. Il l'appelle au téléphone pour discuter d'une présentation qu'ils doivent faire en commun quelques jours plus tard. Le professeur Feng Teng.
En Chine, nous avons de plus en plus de médicaments innovants.
Mais ces médicaments, pour les vendre à l'étranger, on doit prouver leur efficacité au monde entier et donc mener nos essais cliniques aussi en Europe et aux États-Unis. Donc mener des collaborations avec les Français.
Nouer des partenariats avec les Chinois, c'est en effet essentiel. Il ne faut pas louper le train, confirme le professeur Fabrice Barlesi, directeur général de l'Institut Gustave Roussy, premier centre anti-cancer européen.
On ne peut pas rester sourd au développement de molécules qui sont parfois des best in class, c'est-à-dire la meilleure molécule dans sa classe thérapeutique, mais parfois des first in class, c'est-à-dire des premières molécules développées pour toucher une cible. Et on en a besoin pour nos patients. Donc oui, nous voulons être dans ce développement et donc nous nouons des partenariats avec des industriels chinois. Nous sommes en train de développer une joint venture avec le plus gros industriel chinois pour pouvoir disposer le plus rapidement possible et le plus systématiquement possible de ces nouvelles molécules qui pourraient être demain parmi les meilleures pour nos patients.
Et Solène, est-ce que cela signifie que l'on soignera tous les patients atteints de cancer avec des médicaments chinois dans les prochaines années ?
Alors c'est encore trop tôt pour le dire, mais par exemple une dizaine de patients français atteints d'un cancer ORL testent depuis plusieurs semaines déjà un médicament innovant chinois, un anticorps conjugué, sorte de chimiothérapie intelligente qui va cibler très précisément la tumeur. Et c'est une chance, estime le docteur Yun-Gan Tao.
C'est la première fois dans le monde, hein, donc on essaye ce médicament qui est très efficace. Tous les patients que j'ai traités jusqu'à maintenant, il a une efficacité. Et la tumeur, on voit chaque semaine, ça réduit. Donc là, du coup, on a de la chance d'avoir ce médicament en Europe et pour les patients européens et surtout français d'avoir essayé ce médicament en premier.
Et puis, il faut signaler que les médicaments chinois ont aussi un très gros avantage. Comme la plupart des produits chinois, leur coût de production. Une fois commercialisés en France, ils sont beaucoup moins chers. Sur un traitement d'un an, la sécurité sociale économise parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros par rapport aux médicaments européens et américains.
Merci Solène Lehen. On retrouve le choix de France Info sur franceinfo.fr. Votez pour choisir les chansons d'un concert. Certaines grandes stars s'y convertissent. Ce sera la playlist de Maureen Suignard sur France Info après l'actu écho. Avec vous Claire Sargent. Bonjour Claire.
Bonjour William.
Le réveil de l'écho avec Banque Populaire. Engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
L'actualité économique en trois titres. On commence avec les marchés financiers qui sont secoués par les menaces de Donald Trump.
Ah oui, Wall Street a fini en forte baisse. Tous les indices américains ont dévissé. Moins 2% pour le S&P, moins 1,75% pour le Dow Jones et une chute de 2,4% pour le Nasdaq. De lourdes pertes après trois jours de turbulences sur les marchés. Les investisseurs redoutent une guerre commerciale transatlantique. Côté français, le CAC 40 devrait à nouveau ouvrir dans le rouge aujourd'hui.
Et justement, l'Union européenne répond au président américain et décide de geler l'accord commercial avec les États-Unis.
Oui, cet accord ratifié en juillet dernier prévoit 15% de droits de douane sur les exportations européennes vers les États-Unis contre zéro pour les Américains. Le Parlement européen a décidé à la majorité hier de le suspendre. Donald Trump menace la France et 7 autres pays européens défendant la souveraineté du Groenland de surtaxes exceptionnelles. Le Parlement européen doit encore officialiser la décision par un vote formel d'ici mars.
Capgemini va supprimer 2400 postes en France.
Oui, le géant de l'informatique français explique devoir faire face aux nouveaux défis technologiques, notamment l'intelligence artificielle, et subir une baisse d'activité en France et en Europe. Capgemini emploie 35 000 personnes dans l'Hexagone et prévoit de supprimer jusqu'à 7% des postes. Certains salariés se verront proposer une reconversion en interne vers des métiers d'avenir, dit l'entreprise. Les discussions doivent s'ouvrir avec les syndicats.
Claire Sergent, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info, ce sera le Brief Éco.
Oui, emprunter pour acheter un logement pour écouter plus cher les taux des prêts immobiliers. Remonte, selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, et cette hausse pourrait se poursuivre dans les mois qui viennent. Pour autant, il y a des raisons de rester optimiste, notamment pour les primo-accédants, ceux qui cherchent à devenir propriétaires pour la première fois.
Rendez-vous à 6h23 avec vous. Merci beaucoup Claire Sergent. Il est 5h56 et c'est l'heure de la playlist de Maureen Suignard. Et vous nous parlez, Maureen, ce matin d'une superstar qui pimente un peu ses concerts.
Une star britannique, désormais connue dans le monde entier, Ed Sheeran, est en ce moment en tournée. Et visiblement, cela ne lui suffit plus de remplir des salles immenses ou des stades. L'artiste vient de proposer un concept original à ses fans. Ceux qui sont présents le jour J peuvent choisir une partie des morceaux du concert, 5 au total. Sur place, ils sont invités à voter. Et Ed Sheeran doit donc interpréter des morceaux qu'il n'avait pas prévus, les morceaux que les fans ont le plus envie d'entendre sur le moment. Concert interactif donc, qui vient d'être testé en Nouvelle-Zélande il y a quelques jours. Les spectateurs ont notamment choisi ça.
if I kiss you? Will your mouth read this truth? Darling, how I miss you.
Excite Shape of You, qu'on a entendu 150 000 fois environ. Les fans ont entre autres choisi Little Bird, que l'on entend, un vieux titre qui date de 2010.
Ah oui,
et voilà
bien.
L'intérêt de ce concept, William. Les fans se replongent dans la discographie de leur artiste préféré, d'anciens morceaux refont surface et sont de nouveau écoutés. Cela crée bien sûr un moment privilégié entre l'artiste et les fans, un moment unique pour que les différentes dates de la tournée ne se ressemblent pas. Et ça, c'est une tendance ces derniers temps, c'est même devenu la signature d'une autre star, Taylor Swift. Lors de sa dernière tournée, à chaque concert du Eras Tour, elle surprenait ses fans avec des chansons surprises, de quoi faire vriller les Swifties, c'est comme ça qu'on appelle les fans de Taylor Swift,
oui.
Qui spéculaient pendant des jours sur le titre que la chanteuse allait choisir. Cela en a inspiré d'autres. Lady Gaga a fait de même pendant sa tournée. De son côté, ces derniers mois, Dua Lipa faisait une reprise d'un artiste local à chacun de ses concerts. L'artiste britannique chante en français, vous aurez reconnu ce tube, William, Davisé, bien sûr, Lolita, c'était à Paris. Tous ces moments sont bien sûr capturés par les fans, diffusés sur les réseaux sociaux. Buzz garanti autour des concerts qui sont devenus très importants pour la rémunération des artistes. Les fans, eux, ont le sentiment d'en avoir pour leur argent, alors que les prix des billets se sont envolés ces dernières années.
C'est peut-être un peu de leur faute, hein, quand même, le prix des billets qui augmente. Merci beaucoup, Maureen Signard. C'est l'heure de la météo.
France Info Météo, avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin, grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur Vérissure.fr.
Christine Peña.
Je vais faire pareil, demandez-moi.
Ah bah, la météo. Comme prévu, la pluie tombe fortement sur le nord-ouest. Allez, on vous demande la pluie.
Mais oui, alors la pluie, elle est à l'ouest et sur le nord-ouest, en Bretagne. Hein, Finistère et Morbihan sont en vigilance orange pour ces pluies. Elles tombent sur des sols saturés. Attention aux inondations. Nous avons également de la pluie qui viendra se caler petit à petit sur la Nouvelle-Aquitaine. Ce matin, nous avons des nuages, un peu de soleil sur la Nouvelle-Aquitaine, mais pas de pluie cet après-midi. Ça tombera. Et puis alors, le vent également accompagne ces pluies. Ce tour l'ouest, il souffle fortement, hein, jusqu'à 80 km/h à l'intérieur des terres et ça dépasse les 100 sur les hauteurs des Pyrénées côté ouest, sur le Pays Basque aussi ça va souffler fortement. Au milieu nous avons une zone de transition des Hauts-de-France cet après-midi, hein. On a des pluies ce matin comme sur Paris mais ça va être beaucoup plus sec cet après-midi avec quelques éclaircies jusqu'au Massif central et puis à l'est là nous gardons le soleil. Alors il faut composer toujours avec ces brouillards qui pourraient être tenaces du côté du Dijonais ou encore de Strasbourg. Grand soleil encore s'il revient.